Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le lundi 3 mai, il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous étions à la manif de Mende samedi et on était quand même entre 250 et 300 personnes, même sous la flotte. Et grâce à Cynthiana, nous avons pu récolter quelques impressions et quelques revendications. Et oui, ce sera juste après l'édito. Et puis, Corto est allé mercredi dernier à l'ouverture de la nouvelle maison du vélo, avenue Jean Monestier. Ce sera en deuxième partie. Il y aura de la musique comme d'hab, pas le temps de tergiverser, il se passe plein de trucs. On commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Affaire bizarre qui se passe à Millau, il y a une manifestation, je vais vous expliquer. Il y a des activistes qui ont été verbalisés. Alors non seulement ces activistes de Millau sont de l'ultra-gauche, mais en plus, elles ne se lavent pas les mains. La preuve par les caméras. Ces éléments font partie de l'ahurissant dossier de procédure des amendés de Millau, dont 20 sont convoqués le 4 mai, demain mardi, devant le tribunal de police de Rodez. L'histoire remonte à mai 2020. Le 12, au lendemain du déconfinement dans la sous-préfecture de l'Aveyron, se tient une manifestation à l'appel de la convergence des luttes millavoises. On sortait du confinement, on voulait critiquer la manière dont la pandémie était gérée, mettre l'accent sur les conséquences de l'affaiblissement de l'hôpital. On voulait aussi réfléchir au monde d'après. Il y avait une envie de s'exprimer et de le faire en respectant les gestes barrières et avec le masque, pas obligatoire à l'époque pourtant. C'est ce que résume Christian Roquerol, paysan syndicaliste de la Confédération Paysanne. Entre 130 et 150 personnes se trouvent dans la rue ce jour-là. 10 jours plus tard, rebelote. En déambulation dans le marché du vendredi cette fois, les contestataires se constituent en petits groupes distincts avant de se retrouver à une quarantaine sur la place du Mandarou. Ce 22 mai, comme pour le 12, les manifestations n'ont pas été déclarées, mais aucun contact n'a lieu avec la police présente et aucune prise d'identité ni interpellation n'est réalisée. Pourtant, à partir de début juin et en ordre dispersé, environ 45 personnes vont recevoir des amendes liées à ces manifestations. Des amendes de 135 euros de 4e classe, c'est-à-dire d'une faible gravité, pour, je cite, rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonstance territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré. Certains, une vingtaine, préfèrent payer, mais d'autres contestent. Un officier zélé du ministère public, estimant que les infractions sont dûment caractérisées, choisit de ne pas donner suite à ces contestations. Une entrave à la procédure. Normalement, les contestations annulent les demandes jusqu'à un passage au tribunal, qui a entraîné des majorations. À ce jour, au moins 5 personnes ont déjà subi des saisies sur leur compte bancaire. C'est donc au bout d'un an et après une requête en incident contentieux déposée le 8 février dernier par Julien Brel, l'un des avocats du groupe avec Benjamin Franco et Sébastien Delorge, du barreau de Toulouse, que les premières convocations au tribunal de police advient enfin pour 20 des amendés de Millau. Ces derniers, en vue de cette audience du 4 mai, ont pu prendre connaissance récemment du dossier de procédure que Mediapart a aussi pu consulter. Le procès verbal établi le 13 mai détaille ce qui s'est passé la veille dans les rues de Millau entre 19h34 et 21h04. Un modèle de crise de panique hygiénique administrative. Après de 30 reprises sur 5 petites pages, c'est mentionné tout partie du fait que les gestes barrières ne sont pas respectés, que X et Y ne se sont pas lavé les mains lors du passage de micro, qui lui non plus n'a pas été désinfecté, ou qu'un tel tient dans ses mains non gantées le micro. Bref, plus aucune distanciation n'est tenue, s'effondre le scribe. Mais le plus préoccupant est ailleurs, dans le PV dressé le soir même de la manifestation par le commandant de police. Le ton est donné dès la première page, il fait état de l'appel à manifester de l'ultra-gauche au niveau de la place du Mandarou. Suit une liste de 30 personnes dont le pédigré politique, militant et activiste est renseigné. Ainsi, 25 sont connus de nos services, je cite, pour être dans de nombreuses manifestations, note le commandant. Parmi ces derniers, 9 sont également connus pour être sur la liste alternative écologique et anticapitaliste lors des élections municipale du 15 mars, une liste figurant intégralement en annexe d'un autre PV daté du 15 mai. Sont retracés ainsi sans plus de précautions le fruit du travail de renseignement politique effectué par le commissariat de Millau. Une dérive aggravée par le fait que la police millavoise a utilisé des images de vidéos de surveillance de la ville qui lui ont permis de délivrer ses amendes sans contact. Connue dès le mois de juin 2020, cette facette du dossier avait été assumée lors d'une rencontre mi-juin entre une délégation des personnes verbalisées, le sous-préfet et le commissaire. Ce dernier reconnaissant l'usage des images extraites des caméras de vidéosurveillance, tout en minimisant l'importance de ce recours. Ce qui est grave, les autorités ont fiché et délinquantisent l'activité politique et criminalisent les manifestations. Que va dire le tribunal ? Réponse par ni. En tout cas, être fiché pour ses opinions politiques, ça craint. Allez, on se retrouve dans un instant, on part à la manif de Mende, justement. On écoute d'abord En Marche, Père et Fils.
Marche forcée, derrière le premier de cordée. Surtout ne vous inquiétez pas, la richesse des riches ruissellera. En marche de l'empereur, ils ont tous voté, même ta sœur. Parce qu'il est jeune et pas vilain, comme des moutons, comme des pingouins. Manu, crois pas qu'on va rester planté là, t'obéir à l'œil aux doigts. Nos doigts sur la couture du pantalon, au garde à vous comme des troufions. Manu, crois pas qu'on va rester planté là, t'obéir à l'œil aux doigts. Nos doigts levés. Juste majeur, roi comme un hit, roi compris, nous on n'est pas en marche. En marche. En marche. En marche. En marche ou crève. La liberté, la grève, état d'urgence 49-3. Une ordonnance, et c'est la loi. En marche du siècle, tu vas bosser pour 3 copecs. Pour tes agios, pour ton patron, viva l'amont, dialysation. Manu, crois pas qu'on va rester planté là, t'obéir à l'œil aux doigts. Les doigts sur la couture du pantalon, au garde à vous comme des troufions. Manu, crois pas qu'on va rester planté là, t'obéir à l'œil aux doigts. Nos doigts levés, jusque majeur, roi comme un hit, roi compris, nous on n'est pas en marche. En marche. En marche. En marche. On s'est croisé dans un gastro à Paris plage. Tu m'as souri, moi j'y ai cru malgré nos âges. T'étais fougueux, la mèche au vent, un peu babache. T'as pris 3 fois la tête de veau, j'ai dit la vache. Oh la vache. Manu, crois pas qu'on va rester planté là, t'obéir à l'œil aux doigts. Les doigts sur la couture du pantalon, au garde à vous comme des troufions. Manu, crois pas qu'on va rester planté là, t'obéir à l'œil aux doigts. Nos doigts levés, juste majeur, roi comme un hit, t'auras compris, nous on n'est pas en marche. En marche. En marche, ta putain de marche. En marche à l'ombre, on ira pisser sur la tombe de vos idées à la santé, des cheminots, des ouvriers. En marche funèbre, on sera des milliers dans le cortège. A gueuler, ah ça ira, ça ira, ça ira. La bande à Macron à la lanterne. Ah ça ira, ça ira, ça ira. La bande à Manu, on la pendra. Ah ça ira, ça ira, ça ira. La bande à Macron à la lanterne. Ah ça ira, ça ira, ça ira. La bande à Manu, on la pendra.
Il y avait entre 250 et 300 personnes samedi à Mende. Cynthiana a pris du son, on écoute ça tout de suite.
Beaucoup de choses, j'ai envie que beaucoup de choses changent et on espérait beaucoup, hein. On a parlé beaucoup du monde d'après et j'ai l'impression que ça va être pire que ce qu'on a vécu avant. Hein, on a, la situation actuelle est dramatique pour tout le monde, hein, moi je travaille dans la santé, donc elle est dramatique dans la santé, elle est dramatique pour la culture, elle est dramatique pour tout le monde et j'ai bien peur que nos dirigeants, nos gouvernements et la société qui est gérée par le fric, ça n'arrange rien en tout cas, et que ça soit pire qu'avant. La preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, j'entendais aux informations que nos multinationales qui se font plein d'argent en permanence, eh ben, ont multiplié par 2, 3, 10, 100 fois leurs profits. Qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai l'impression que tout ce qu'on vit aujourd'hui, ça ne sert à rien et on n'évolue pas. Je suis là pour ça aujourd'hui. Je suis là pour ça aujourd'hui, pour exprimer ma révolte par rapport à tout ça. Et espérer quand même que tout ça va servir à quelque chose, même si Je doute beaucoup. Voilà.
Qu'est-ce que j'aimerais voir changer ? Ben, un paquet de choses, en fait. Il faut changer de gouvernement, littéralement. Il faut changer d'idéologie complètement. Voilà. Je pense qu'il faut un changement radical. Il faut aller à la source des problèmes, là. C'est donc ce capitalisme qui détruit tout. C'est une catastrophe.
Il faut changer de système ?
De système. Il faut changer de système.
Une sixième république ?
Ah, par exemple, ouais. Ça, ouais. Complètement.
Bah, c'est le 1er mai, hein. C'est le rendez-vous quand même un petit peu de toutes les luttes où on revient un peu sur tout ce qui s'est passé sur l'année, toutes nos luttes actuelles, et puis rappeler tout ce qui se passe dans le monde entier, comme ça a été dit dans le discours à 10h30. Et puis c'est plus que d'actualité en ce moment, avec les théâtres occupés par exemple, les luttes, je suis syndicaliste, hein, donc les luttes syndicales, elles sont loin d'être éteintes et il y a encore un grand besoin. Ouais. Déjà au moins qu'il y ait une prise en compte de nos politiques, voilà, c'est ce que les citoyens un petit peu réclament, je pense que c'est quand même assez visible, mais on sent qu'ils profitent un petit peu, voilà, c'est un sentiment, hein, que la situation sanitaire leur permet de faire passer des choses qui ne sont pas forcément les souhaitables, ni souhaitées.
Et vous aurez des propositions ?
Alors moi je suis plutôt dans l'éducation. On s'aperçoit que cette crise sanitaire a quand même profondément marqué nos écoles, hein, marqué nos élèves. Mais en face de ça, on a un ministre en fait qui ne fait rien pour vraiment venir en soutien aux élèves et aux enseignants. On a un discours que tout va bien, tout le monde sait faire et que tout va se dérouler comme il faut. Non, ça c'est un discours, c'est un discours de menteur, j'allais dire. Parce qu'on voit bien qu'on a des besoins en remplacement qui ne sont pas couverts. On a des besoins pour aider justement les enfants en décrochage, on n'a rien qui arrive en place. On a un grand plan de relance, mais l'éducation, tout le monde de l'éducation est complètement oublié. On n'a eu aucun moyen supplémentaire face à toute cette crise. C'est un exemple. Hein.
Ben on est là parce qu'en fait on a envie de défendre les salariés, la culture, la vie, l'humain. Et il y en a marre de cette putain de société de consommation. Et on a envie de changer la vie. Et voilà, et là c'est l'occasion et il pleut et ça fait rien, on est content. Voilà.
On est là parce qu'on est content.
Voilà.
Enfin, pour être content.
Nous on est là pour représenter la Confédération Paysanne et les combats de la Confédération Paysanne, donc on vient manifester un peu pour sauvegarder l'emploi paysan et qu'il y ait des paysans nombreux dans des campagnes vivantes.
Donc il y a une nouvelle PAC en préparation aujourd'hui qui sera en application en 2023. La Confédération Paysanne a essayé de se battre pour que les petites fermes y aient droit également, parce qu'il faut savoir que la répartition est très injuste et en gros c'est un petit peu la même règle même pour d'autres aides. C'est 20% en gros des agriculteurs qui touchent 80% de la PAC, y compris d'ailleurs des entreprises agroalimentaires, et que les petits paysans qui ont peu de surface ou même qui sont en production végétale touchent très très peu, voire rien du tout.
Du coup, en ce moment, il y a des renégociations pour la future PAC, qui est renégociée grosso modo tous les 5 ans. Donc la prochaine programmation débutera, bon elle a été un peu retardée, mais elle débutera en 2023. Et en ce moment, c'est là que tous les acteurs se positionnent. Qui veut une PAC plus verte, qui veut une PAC plus industrielle, qui veut des plus grosses fermes, qui veut des fermes paysannes, qui veut de l'agrochimie ou qui veut de l'agriculture biologique. Et du coup, nous, à la Confédération Paysanne, on milite fermement pour plus d'agriculteurs, plus de paysannerie, des cycles naturels mieux respectés, moins de pesticides, plus d'agriculture biologique, et une PAC plus juste qui arrête d'engraisser quelques gros agriculteurs et de laisser sur la paille beaucoup qui touchent rien du tout, mais plus redistributive, et qui l'objectif étant quand même de nourrir notre population.
Ça, tu penses, ça aiderait à un monde meilleur ?
Ah ben oui, il n'y a pas que ça, mais il faut ça, oui. La nourriture, c'est quand même la base de la vie, non ? Enfin, une des bases.
Le 1er mai, c'est important pour toutes les organisations syndicales, notamment la CGT. Hein. C'est pas la fête du travail, hein, comme le disait Pétain, mais c'est la journée internationale du droit des travailleurs. Et chaque année, il faut vraiment le répéter, parce que depuis déjà pas mal d'années, il y a des attaques contre les droits sociaux. Et en cette année 2021, dans ce contexte de crise... de crise sanitaire sans précédent, le patronat et le gouvernement nous resservent les mêmes recettes qui n'ont jamais marché jusque-là, c'est-à-dire filer du fric et un maximum de pognon à ceux qui n'en ont pas besoin et faire crever la dalle aux plus faibles, notamment avec la réforme de l'assurance chômage, mais aussi, on n'en parle pas trop en ce moment, le fait que le gouvernement n'abandonne pas son projet de réforme sur les retraites qui va considérer à appauvrir un peu plus les salariés les plus fragiles. Moi, je pense que l'urgence elle est à continuer à se battre contre cette réforme de l'assurance au chômage, parce que ça va arriver très vite. Ça va priver plus d'un million et demi d'allocataires de ressources suffisantes pour pouvoir vivre dignement. Et là, je pense que, en tout cas, au niveau de la CGT, nous, on veut pousser, appuyer sur l'accélérateur pour essayer de mobiliser au maximum sur cette thématique. Là, c'est vraiment l'urgence absolue, parce que je ne suis pas sûr qu'une certaine frange de la population comprenne que ça va avoir des répercussions gravissimes. Cette année, il est différent des autres. D'ailleurs, on le voyait venir déjà depuis quelques semaines. Et même ces derniers jours, moi, pour en avoir fait un certain nombre en Lozère, il y a une mobilisation qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Et puis surtout, il y a quand même une unité syndicale qu'on n'avait pas vue aussi depuis très longtemps. Alors certes, on a toujours eu des différences d'appréciation entre les diverses organisations, mais notamment sur le cas de la réforme de l'assurance au chômage, on est tous d'accord pour dire qu'il faut abroger cette loi. Et ça c'est bien. Alors c'est pas bien pour les organisations syndicales en tant qu'elles-mêmes, c'est bien pour les salariés et pour ces gens qui risquent de perdre beaucoup. Parce que les principaux acquis sociaux, ils ont toujours été gagnés quand il y avait l'unité syndicale.
Mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La 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 la. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe.
Voilà, merci Cynthiana pour le son. C'était Le Pieu de Marc Robin. Tout autre chose, Corto est allé à l'ouverture de la nouvelle maison du vélo. C'était mercredi dernier, c'est avenue Jean Monestier. On écoute ça tout de suite.
Alors, on est en direct de la maison du vélo qui ouvre donc ses portes aujourd'hui. On est en compagnie de Pierre-Antoine Théry, qui est donc le président de l'association, le gérant du magasin aussi, j'imagine.
Le mot gérant, j'aime pas beaucoup parce que ça fait d'abord beaucoup trop économique. Et qu'on est d'abord une association de l'économie sociale et solidaire, avec une thématique qui est très économie circulaire, qui est le réemploi. Ne pas jeter, et on est lauréat de l'appel à projet du plan Montagne d'Occitanie en décembre 2020, sur ce principe de ne pas jeter les vélos, mais de réutiliser les vélos et de les moderniser, en appliquant les technologies d'aujourd'hui au niveau sécurité, éléments de sécurité, au niveau présentation et au niveau électrification, qui est une option, mais qu'on pousse au maximum compte tenu de la géographie de notre territoire.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, te présenter, comment t'en es arrivé là à vendre des vélos ?
Alors, je vais oublier mon parcours personnel parce que je suis quelqu'un qui a un cerveau à 360 degrés. Voilà, donc beaucoup de choses m'intéressent. Et la curiosité étant le meilleur diplôme de la vie, je crois que j'en suis un des exemples précis. On va revenir sur le principe de l'association de Terre Symbiotique Occitane, qui a comme thématique de base les mobilités durables partagées. Qu'elles soient voitures, qu'elles soient cyclomoteurs, donc scooters ou autres, et qu'elles soient vélos. Il se fait que le vélo a pris la première place pour une raison très évidente, c'est qu'il y avait un appel à projet de la région et que quand on a des idées innovante, ben il faut trouver des sous, même quand on est, surtout quand on est associatif, parce qu'il y avait énormément de dépenses à faire. Et on a eu le mérite, grâce à Aurélie Mayol de la région, qui nous a poussé à démarrer par les vélos pour être aidé sur les autres dossiers. C'est une forme de léger stimulus passé par les mobilités douces, compte tenu qu'on est dans un parc national. On s'occupera de vous et on vous aidera pour les voitures après. Donc on a démarré avec les vélos. J'ai dit à tout le monde que je n'avais pas la compétence technique des vélos, donc il a fallu créer une équipe. Et le projet de TSO est un projet d'équipe où se sont greffées les personnes en fonction de leur conceptualisation, de leurs compétences, de leurs choix. Alors c'est parfois difficile de faire respecter le choix initial de l'appel à projet et la personnalisation de chacun. C'est la vie, comme en amour, c'est du compromis, c'est un cumul des compétences de chacun, et il en sort ce que vous voyez dans ce que vous avez appelé la boutique, la maison du vélo, qui est un terme générique, qui est les vélos recyclés, avec leurs trois étapes, ce qu'il était à la base, ce qu'il devient s'il n'est pas électrifié et ce qu'il devient quand il est en option électrifié.
Quel service vous proposez du coup exactement, de la réparation, de la location, de la vente ?
Alors, comme vous voyez, on est d'abord dans un local relativement petit, donc on va évoluer en fonction des possibilités de ce local, et il y a une progressivité sur deux plans. Un plan qui est plus économique et qui passera en SCIC, en Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui est la vente et location de vélos qu'on recycle et de vélos neufs éventuels qu'on a mis au point pour le PETR dans le cadre d'un marché public qui n'a pas été jusqu'à son terme, hélas. Et les vélos recyclés, c'est la base de notre travail, c'est la base de la thématique du réemploi. Donc là, l'objectif est de cumuler une activité qui est une activité de boutique classique avec toutes les réparations possibles en fonction de la demande du client et de nos possibilités à nous et des disponibilités des pièces, puisque vous savez que le marché du vélo est en rupture de stock assez fréquemment actuellement, et donc on a subi comme les autres cette situation. La deuxième activité, c'est celle qu'on a dans le cadre du réseau national, le recyclage, qui est beaucoup plus de l'économie sociale et solidaire, donc c'est de l'adhésion à l'association, et vous avez atelier d'auto-réparation, où vous venez réparer votre propre vélo avec les outils de l'association et les conseils de l'association, quand vous avez un besoin spécifique. On vous vend que les pièces qui sont nécessaires à cette réparation, mais c'est le membre de l'association qui profite, je dirais, ou qui bénéficie plus exactement, le mot sera plus sympathique, du contexte de collaboration, collaboratif, participatif qu'on veut faire. Donc il y a énormément de travail à faire vis-à-vis du bénévolat et vis-à-vis de cette participation active des gens pour qu'ils découvrent comment on répare un vélo, comment on l'entretient, comment on lui fait avoir plusieurs vies, comment on peut le réactualiser en l'électrifiant, pourquoi pas, etc., etc. Et donc atelier d'auto-réparation, atelier d'auto-équipement vélo électrique, bourse au vélo, séance de remise en selle des adultes, séance de remise en selle pour apprendre comment on conduit un vélo électrique, ça se conduit pas de la même façon, etc. Il y a une masse de choses qui sont à mettre en place, progressivement, étape après étape. Donc on démarre avec l'ouverture, on est à disposition des gens dans le cadre des contraintes sanitaires du moment, et on s'adaptera en fonction, donc c'est sur rendez-vous, et on sera ouvert pendant tout le mois de mai et le mois de juin, tous les mercredis et jeudis, cumulés, en journée porte ouverte, dans le cadre de la manifestation nationale qui s'appelle maiavélo.fr, qui est la grande messe du vélo, qui devait avoir lieu que sur un mois, et comme je viens de vous le dire, qui a été prolongé sur deux mois compte tenu du contexte. Donc là, on recevra, et on a des thématiques, y compris en innovation, au niveau itinérance. Il y aura une proposition d'itinérance le 25 mai, mais ça, il faut aller sur le site maiavélo.fr, et toutes les informations, faire Florac, par exemple, ou faire les dates que vous voulez, et sur notre site qui sera opérationnel, on va dire, première semaine de mai, voilà, au niveau de ce genre de détails. Donc, c'est beaucoup de choses à mettre en place. On n'a aucune prétention d'être capable de le faire à l'instantané. Là, on est capable, par contre, de recevoir des gens, de leur faire un diagnostic, de leur faire une proposition d'amélioration de leur vélo, de remise en état de leur vélo, de ne pas le jeter, pas être obligé d'acheter un vélo neuf obligatoirement.
Il y a des aides qui se développent de plus en plus pour l'achat de vélos, pour la réparation, l'achat de vélos électriques. Il y en avait même une très récemment pour la conversion, il me semble. Je ne sais pas si elle est déjà passée ou pas.
Il y a des aides qui sont tombées, comme le coup de pouce, c'est fini. C'était les 50 euros de réparation d'un vélo. Donc ça, pour l'instant, ça n'a pas été prolongé, on le regrette. Et puis sinon, ben il y a les aides aux particuliers, c'est-à-dire la région, parfois certaines villes. Florac ne le fait pas, sauf information que je n'aurai pas. L'État le fait aussi, pas pour les associations. C'est-à-dire que nous, on peut pas avoir des aides pour acheter des vélos et les prêter à d'autres ou les louer. Il faut que ce soit les membres de l'association qui achètent à titre personnel le vélo et qui le confient à l'association. Ça, c'est une petite problématique qu'on a en tant que personne morale, en tant que structure, je dirais morale, même non lucrative. Mais c'est vrai que le monde du vélo est lourdement aidé, et surtout dans l'innovation et dans le fait de rapproprier à la France un certain nombre de choses qui serait susceptible d'être faite. On était un pays leader en fabrication de vélos, et puis tout est parti, comme les médicaments, comme le Covid, hein, comme tout ce qui est sanitaire, est parti en Asie. Et l'Asie, ils se relèvent eux aussi de cette problématique de santé, et ils servent quand ils ont envie de servir, qui ils ont envie de servir, en priorité. Donc on dépend énormément du monde asiatique au niveau... Tout le monde est assembleur, si vous voulez, de vélo. C'est-à-dire qu'on achète un moteur électrique, on achète un cadre, on achète des roues, on achète des jantes, on achète une selle, et après, on a conçu un vélo qui est votre propre personnalité, ou sinon vous achetez les cadres, mais c'est de plus en plus difficile d'être utilisateur de cadres neufs, parce que les constructeurs, par des normes européennes, le refusent de plus en plus. Donc, l'objectif est d'avoir une forme d'indépendance en reprenant des cadres anciens qui sont utilisables, réadaptables, parce qu'ils sont en bon état. Donc il y a un contrôle, il y a une expertise des états des cadres sur lequel on a une, je dirais, une responsabilité civile professionnelle en tant que acteur de remise en état d'un vélo. C'est nous qui avons cette responsabilité juridique de ce qu'on vend ou de ce qu'on loue aux gens. Voilà, donc c'est un monde extrêmement complexe, extrêmement compliqué à l'heure actuelle, mais un monde passionnant que j'ai découvert et que je regrette pas d'avoir découvert et mis en premier, même s'il a été un peu long à cause du Covid, puisqu'on a un an de retard sur la programmation qui était prévue initialement quand on a fait démarrer cet appel à projet en janvier 2020. On est en janvier, on est en mars, en avril 2021. Voilà. Vous voyez qu'il faut du temps, il faut beaucoup de patience, et il va en falloir encore beaucoup. Mais on a, grâce à l'aide de Victor, que j'aimerais bien qu'il prenne la parole en tant que concepteur, que tête pensante technique de notre travail d'artisan créateur de vélo, on a cette capacité, je pense, à pouvoir ramener dans des zones comme la nôtre, qui sont des utilisateurs de vélo, qui sont poussés à être utilisateurs de vélo en tant que parc national, et grand site Occitanie et futur grand site de France, à être nous-mêmes nos propres acteurs locaux en économie sociale et solidaire et en économie circulaire surtout, en réemploi.
Et du coup, vous avez des aides de l'État ou de la région ou quoi que ce soit ?
Bon, comme je vous l'ai dit, on a été lauréat de l'appel à projet, donc on a une subvention. Mais comme je l'expliquais hors micro, le principe d'une subvention, c'est qu'on vous suggère de dépenser et on vous rembourse les dépenses. Encore faut-il avoir la trésorerie pour le faire. Donc on a pu se mettre en place, on a pu louer une boutique, on a pu équiper cette boutique, on a pu concevoir 3 vélos, voilà, un Cévenol électrifié, un Cévenol non électrifié à partir de modèle Gitane des années 2000, et on a créé un vélo neuf, le Pélaroux. Donc on a déjà montré que l'équipe, au travers de son concepteur technique, avait des capacités à pouvoir faire la preuve de sa volonté. Maintenant, il faut continuer. Il faut arriver à ce que les prototypes fassent des petits. c'est le souhait qu'on a en vous sollicitant ce genre d'interview et en montrant que c'est d'abord un travail d'équipe. Je voudrais le répéter encore une fois. Je ne suis que l'entremetteur des bonnes causes, si vous voulez, que l'initiateur. Mais sans l'équipe, il y aurait rien.
On va donner la parole à Victor un peu. Eh ben, bonjour Victor.
Bonjour.
Alors tu peux nous parler un peu de ton travail ici, de ce que tu fais, comment t'es arrivé là, ce qui t'intéresse dans les vélos.
Bah alors moi je suis cadreur installé sur le Cosméjean, donc je fabrique mes propres vélos sur mesure, mes cadres, vraiment un par un. Puis j'ai entendu parler donc de Pierre-Antoine qui a eu cette subvention, qui avait un projet vélo, et moi ce qui m'a rassemblé c'est que j'ai eu un magasin à Londres pendant 5 ans où je faisais exactement ça, donc je recyclais des anciens vélos, mais moi je sélectionnais vraiment les cadres qui étaient tous les cadres d'héritage français des années 40 aux années, disons, fin 70, quand ils étaient faits à la main, etc. Pour les recycler, vraiment les remonter avec des nouveaux composants, des choses, faire un mix en fait de ce qui avait de bien dans ces cadres-là et des composants un peu plus performants, des vitesses par exemple d'aujourd'hui, voilà. Et du coup, ben voilà, j'ai trouvé que ce projet était vraiment bien pour ce côté de recyclage et aussi de rendre un peu démocratiser le vélo électrique pour des nivelés qui sont quand même assez importants ici, quoi.
Et ça prend combien de temps, du coup, pour convertir un vélo en vélo électrique? C'est un sacré taf, non?
Pour la conversion, donc on attend aux gens d'amener leur vélo, on fait un diagnostic de ce qu'il y a à, donc déjà pour le kit vraiment de ce qu'il faut mettre pour l'électrifier, Et après, on fait pas que ça, c'est-à-dire qu'on l'installe et aussi on vérifie que, par exemple, les freins sont assez puissants pour avoir un vélo électrique, donc un peu plus lourd, un peu plus... Voilà, c'est pas juste, on électrifie un vélo sans changer quelques pièces pour le rendre sécuritaire, quoi.
Est-ce que vous faites des offres adaptables, par exemple, si quelqu'un souhaite une telle puissance, par exemple, sur son vélo, une telle couleur ou quoi que ce soit?
Oui, oui, bien sûr, c'est tout personnalisable. On fait repeindre les cadres thermolaqués à la couleur qu'ils veulent. Tout est vraiment à la carte, quoi. Donc, il faut pas hésiter à passer commande, venir ici avec son vélo pour en discuter, faire un devis. Et puis après, on commande les pièces et puis en une semaine, on peut avoir un truc fait, quoi. Voilà. Après, il y a aussi des lois au niveau de la puissance des moteurs, etc. Donc c'est ça qu'on on fait avec 250 watts par exemple pour les moteurs à l'arrière et tout ça. Donc
et d'ailleurs c'est un truc qui se développe de plus en plus au final, la vente de vélos, de vélos électriques, enfin ça marche de plus en plus, quoi, ça c'est à la mode. Mais est-ce que du coup il y a de plus en plus de concurrence, j'imagine. Est-ce que vous êtes confiant, vous, par rapport à ça?
Je pense qu'on n'est pas là pour vraiment essayer de prendre le marché dans ce sens-là. Je pense qu'on est là, il n'y a pas énormément de gens qui font beaucoup de conversions comme ça. Et l'idée, c'est vraiment, je pense, d'avoir un lieu qui est à la fois local, où on peut venir échanger, partager, que ce soit un genre de centre sur Florac où les gens peuvent à la fois faire venir réparer leur vélo, n'importe quel vélo, ou juste le faire électrifier, ou apprendre à réparer son vélo soi-même. Enfin, que ce soit vraiment un genre de... Oui, de communauté, d'endroits centre autour du vélo qui se mettent en place, quoi. La maison du vélo, vraiment, voilà.
Un chouette d'endroit, d'ailleurs, hein. Eh ben, merci en tout cas, Victor.
On sert du café, d'ailleurs. Vous êtes voilà, bon, avec les normes sanitaires en ce moment, c'est peut-être pas le meilleur truc, mais voilà, ce sera en tout cas ouvert au public quand ce sera autorisé.
je voudrais juste préciser un petit peu ce qu'il a fait, c'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés d'acheter ce qu'on veut leur proposer. On fait l'étape, nous, de réadapter des vélos qu'ils permettent, c'est-à-dire qu'ils sont expertisés au préalable, enfin diagnostic. Il y en a certains derrière qui ne le sont pas, qui ne sont pas capables. Donc on vendra des vélos d'occasion à 20 euros avec un diagnostic. On vendra des vélos remis en état musculaire, c'est-à-dire sans électrification, un petit peu plus cher parce qu'on aura changé les freins, on aura changé les pneus, on aura remis les éléments de sécurité qui font la base d'un vélo en état. Mais je dirais que c'est un monde global dans lequel on a 4, 5, 6, 7 catégories de possibilités de bosser ensemble pour arriver à remettre sur la route et à remettre des gens en selle. Voilà. Donc il n'y a pas d'élément établi, c'est pas une marque, c'est pas un truc, c'est l'opportunité ou l'occasion qui crée le fait qu'on peut donner une seconde vie au produit, quel qu'il soit, une machine à café, un truc. On est dans cette philosophie du réemploi global de ce qui est réemployable. On est bien d'accord. Donc, il y a une responsabilité juridique de la personne morale qu'on est et de son président. Donc, on est obligé de faire un certain nombre de sécurités. On sera obligé de dire non à certaines personnes, compte tenu de leurs désirs ou autres, et elles feront en fonction des coûts qui sont relatifs à leur choix ou aux préconisations qu'on leur suggérera. Après, ils l'appliquent ou ils l'appliquent pas. D'accord? Mais c'est un collectif de décisions entre la personne qui va venir avec son vélo, ou qui va venir chercher un vélo chez nous, ou voir s'il y en a un qui lui convient dans ce qu'on lui propose. Mais c'est un collectif d'esprit pour que les gens abandonnent le maximum leur voiture et prennent un vélo. Alors, vous parliez tout à l'heure d'aide, le kit à la conversion, où on peut laisser abandonner une vieille voiture diesel et avoir 2500 euros d'aide de la part de l'État sur un vélo. C'est nouveau, ça vient juste de sortir. Est-ce que c'est appliqué ou pas? On ne le sait pas encore. Donc, on verra un petit peu à s'adapter à ce que l'État fait. Mais il y a un énorme plan vélo, compte tenu que la France a un passé vélo énorme, qu'on n'est pas dans les montagnes de déchets de vélo comme en Asie, mais qu'on est sollicité nous-mêmes par les déchetteries qui reçoivent des vélos tous les jours ou très régulièrement et qui savent pas quoi en faire, donc qu'on pourrait récupérer. Donc toute personne qui a dans sa cave, dans son grenier, quelque part, un vélo qui ne sert à rien, on est demandeur. On est demandeur d'outils aussi. d'outils spécifiques ou d'outils généralistes qu'on générera, qu'on regardera s'ils nous sont applicables ou pas, mais toute aide de la part des gens, toute complicité par rapport à cette philosophie du réemploi nous sera utile, et on fait cet appel à cette occasion de cette interview. Donc j'aimerais bien maintenant qu'on puisse faire parler Mohamed, qui est un garçon qui a répondu à l'appel d'offre emploi stagiaire qu'on a fait, de façon à former des gens qui n'en avaient pas la capacité, qui étaient en demande d'emploi, en problématique d'emploi éventuellement, au vélo. C'est un monde qui paraît simple, hein, c'est tout léger un vélo par rapport à une voiture, mais vous avez le schéma ici de toutes les pièces qui composent un vélo, et c'est clair qu'il y a un abécédaire à apprendre, il y a un langage et il y a une technicité manuelle à acquérir. Donc là, il va vous dire un petit peu, il a fait depuis le 6 avril les premières expériences, je dirais, de ce qu'est ce monde-là, et il va partir en formation dans 15 jours dans le cadre de l'Académie des métiers du vélo que l'État prend en charge, et c'est un superbe geste de leur côté. Je lui laisse la parole.
Oui, alors Mohamed, vous le connaissez bien, hein, c'est Momo du Momixmo qui travaille ici. Alors ça va, Momo ?
Oui, merci. Eh bien voilà, comme il vient de le dire, moi, en fait c'est suite à un article paru dans le Midi Libre fin septembre, où j'ai contacté Pierre-Antoine et voilà, il m'a parlé de son projet, et puis bon, moi j'étais aussi en recherche de reconversion, parce que bon, évidemment depuis l'année dernière, la restauration est un secteur qui a pâti énormément, et que donc en tant que cuisinier, trouver du boulot ça devenait de plus en plus difficile, enfin, dans le coin, enfin même ailleurs. On a fait un contrat avec Pôle emploi, un contrat unique d'insertion. Je pars en formation parce que moi évidemment je suis pas du tout du métier, donc je pars en formation à la mi-mai là, dans le Gers, à l'île Jourdain, où je vais avoir une première formation de 3 semaines, et puis ensuite normalement l'automne retournerai là-bas à l'île Jourdain pour une formation diplômante et qualifiante concernant la réparation, le vélo, la gestion d'une boutique, etc. Quoi.
Tu vas devenir un pro du vélo, quoi.
Un pro, je sais pas, peut-être un jour, mais comme dit le... C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en vélofant qu'on devient vélo. Ouais. Oui, non, mais voilà, oui, j'espère que... Oui, de toute façon, ça peut être que bénéfique, quoi. Puis au moins, voilà, c'est un contrat à l'année, non plus, truc saisonnier, sans savoir de quoi sera fait le lendemain, à cause des restrictions sanitaires.
Pour bosser ici, du coup, ou dans une boutique de vélo?
Dans un premier temps, ça serait bosser ici, puis après, on verra, hein, peut-être sur Vébron, monter un atelier de réparation aussi, de montage de vélo, mais bon, ça sera pas dans l'immédiat, faut rentrer des sous, faut que la boutique tourne, parce que bon, si on monte un deuxième atelier, ça veut dire acheter ou se faire donner des outils pour de façon à avoir acheter des pièces aussi, voilà. Donc ça demande un peu d'argent, tout ça, le nerf de la guerre.
Et du coup, vous êtes trois en fait à bosser ici pour le moment?
Non, ils sont deux en stagiaire, mais il y en a un qui nous a appris ce matin qu'il était encore qu'à contact pour la deuxième fois ce mois-ci, à cause de la crise sanitaire, Ruan, qui est un garçon de 24 ans, et donc qui doit partir avec Mohamed à Sup de Vélo à l'île Jourdain dans Gers, qui est le cluster vélo d'Occitanie, qui a une école, qui s'appelle Cyclelab, dans lequel il y a une formation. Ils ont un contrat avec, on a un contrat avec Pôle emploi pour Mohamed, par exemple, et Ruan, qui sont des contrats, ce qu'on appelle aidés, avec une obligation de la part de l'employeur, qu'on soit associatif ou entreprise, peu importe, on est employeur, de monter en compétences. Donc là, il fait une formation d'opérateur cycle, qui lui permet d'apprendre le vocabulaire, d'apprendre les actes, d'apprendre à recevoir un client, d'apprendre à écouter un client, de lui faire un diagnostic, de lui faire un devis, etc. Donc c'est un éventail complet. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les contrats de qualification professionnelle qu'il fera au deuxième semestre, qui lui permet d'avoir un diplôme. Et s'il a envie de nous lâcher, ben il pourra monter sa propre activité à Vébron, puisqu'on est encore en République, donc on a le droit de faire ce qu'on veut en fonction des contrats qu'on a signés et qu'on doit respecter. Et la troisième étape, c'est expert VAE, c'est-à-dire être formé à tout ce qui est travail sur le moteur électrique, qui, comme pour les voitures, nécessite une formation complémentaire, plus légère, mais complémentaire. Donc c'est tout un ensemble de choses, mais actuellement on est sur ce dossier, on est 6 à travailler à temps partiel, hein, c'est du temps partiel, c'est pas, on n'a pas les moyens pour l'instant d'embaucher des personnes à temps plein, mais les choses doivent évoluer en fonction de, un, de la clientèle, comme le disait Momo, l'argent est nécessaire pour pouvoir faire une prestation, pouvoir payer l'électricité, louer un local, et faire tout ce qui est la vie d'une entreprise ou d'une personne morale, quelle qu'elle soit. Donc on est dans cet engrenage du monde moderne dans lequel les associations ont nécessité d'être économiquement viables. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'idée de départ de l'appel à projet, il était de ne pas créer d'usine. On est en capacité de pouvoir fabriquer 400 vélos, les Cévenol, donc recyclés par an à peu près, avec une équipe réduite. Mais l'idée était de ne pas avoir un entrepôt dans lequel on fait travailler des gens à la chaîne, mais de leur amener des outils audiovisuels sur tablette, après formation préalable, ici, donc dans un local précis, pour les lâcher et les faire travailler à domicile. C'est-à-dire qu'ils avaient un pied d'atelier, on appelle un pied d'atelier, ils ont les outillages, ils ont le support audiovisuel de mémorisation des différentes étapes répétitives qu'on fait, et c'est là que Mohamed nous a rejoints, pour essayer de travailler avec Bon. Alors il comprend aisément qu'à l'heure actuelle c'est un peu prématuré de vouloir faire ça, mais le plus vite possible on pourra le faire, mieux on se portera. Et on avait souhaité, pour renforcer, parce que la crise sanitaire et le télétravail a amené à comprendre qu'être tout seul devant un écran, quelle que soit sa taille, c'était parfois problématique, et qu'on avait parfois à se gratter la tête, les cheveux. Donc avoir deux côtes à côté de soi pour pouvoir poser une question humaine et avoir un confort d'une relation humaine, c'est mieux. Donc on cherche des couples, entre guillemets, non officiels, mais des couples de travail, binômes, par village. C'est-à-dire sur Saint-Enémy, il y aura une équipe de 2 personnes, sur Vébron, il y aurait une équipe de 2 personnes, sur Florac, il y aurait une ou plusieurs équipes de 2 personnes qui travailleraient en binôme sur démonter et remonter des vélos, nettoyer des pièces, etc. Ce qui permet d'éviter de payer des structures des murs, mais de réserver surtout sur la création d'emplois, qui est un des problèmes de la Lozère. Je parle pas de la notion de vouloir travailler, je parle de la notion de trouver du travail. Ça, c'est 2 notions complètement différentes. On a les 2 cas en Lozère. Hein. Bon. Il y a des gens qui se contentent de leur situation, puis il y a des gens comme Mohamed qui ne s'en contentent pas ou qui essayent de ne pas s'en contenter, et donc de s'ouvrir d'une façon dynamique, d'une façon intelligente, à, pourquoi pas, à faire un défi, et à se dire, je vais passer de cuisinier monteur de vélo, technicien réparateur de vélo, etc., en sachant que c'est des métiers qui peuvent aller jusqu'à 2 500 euros... brut ou net par mois selon les diplômes et la responsabilité qu'on a. Voilà, donc c'est pas sous-payé, hein, c'est un monde qui est d'avenir, c'est un monde qui potentiellement a énormément d'emplois à créer, mais on constate qu'il y a énormément de gens qui ont pas de diplôme. C'est du travail de terrain. Le monde du vélo en France est un monde où les gens se sont auto-formés et se sont déclarés réparateurs de vélo. Voilà, donc on est, nous, obligés, dans le cadre des contrats qu'on a, et en tant qu'association porteuse de ces projets, d'arriver à avoir le suivi des réglementations et d'avoir des diplômes qualifiants qui permettent de libérer le personnel qui tournera chez nous, 2 stagiaires, puis on en prendra 2 autres, puis après on en prendra 2 autres. Voilà, mais le projet va évoluer en plusieurs étapes, à la fois pour fractionner l'aspect un peu trop mercantile de la réparation et de la vente, de l'aspect associatif, économie circulaire. Ça, il faut absolument qu'on le fasse pour 2022, mais pour l'instant, il faut qu'on se mette en selle, nous aussi, et donc qu'on démarre. Donc on démarre par la première marche de ce grand escalier qui nous mènera vers des mobilités durables et vers le respect de l'environnement que mérite notre territoire.
Et est-ce que vous avez un site internet, d'ailleurs ?
Oui, qui s'appelle Les Cévenol, tout lié. Par contre, ça s'écrit V-A-E. Ça s'écrit C-E-V-A. E-N-O-L-S. Pourquoi? Parce que VAE, c'est vélo assistance électrique. Donc il n'y avait pas besoin d'une bière pour arriver à pondre quelque chose comme ça. Il fallait qu'on ait un nom. Voilà, il fallait qu'on trouve un nom qui parle bien de notre paysage et de notre pays. Et ça se prononce exactement comme Cévenol, hein, on est d'accord. Il ne faut pas aller dire C-V-A-E-N-O-L parce que c'est imprononçable. Non, c'est des Cévenol, mais avec un clin d'œil au vélo électrique. Voilà, il y a un site donc qui est lescevenoltoutlié.com, voilà, qui est un embryon de site actuellement, et on renverra sur des sites complémentaires en fonction des animations, par exemple Mets à vélo dont j'ai parlé tout à l'heure. On aura ces trois doublons de journée, porte ouverte courant mai, et cette itinérance Mer-ES Rock des Hortous, où on convie les gens à venir s'inscrire, et en fonction de ce que nous dira le gouvernement début mai, on saura si on doit être 6, 10, 15 ou 20, on s'adaptera à ce moment-là. Voilà. Mais c'est vrai que la situation est pour l'instant pas encore très claire, on espère tous un été favorable, comme on l'a eu l'année dernière, mais ce serait quand même très regrettable qu'on replonge à la rentrée dans la crise sanitaire à nouveau par un peu trop de dilettantisme. Donc je maintiens aussi ma volonté, moi qui suis vacciné, que les gens se fassent vacciner et qu'on sorte enfin de cette crise sanitaire qui n'en est peut-être que la première. Voilà, donc un petit peu d'autodiscipline serait bien. La Lozère est pour l'instant beaucoup moins protégée qu'elle ne l'était dans la première crise de 2020. Et on est l'exemple même de « on était protégé, on se croyait protégé, on l'est pas ». Voilà, donc aérons-nous, pédalons, actons vélo. Derrière, il y a de la location cet été, il y a un festival 4C cet été, il y a des tas de choses à venir, mais premier pied sur la première marche de l'escalier, le deuxième pied on le mettra un petit peu plus tard sur la deuxième marche, et puis sur la troisième, puis sur la quatrième. Et ça se fera collectivement. Donc tous les bénévoles qui adorent le vélo, qui aiment le vélo, qui ont envie de nous rejoindre, sont appelés de nos voeux à nous rejoindre. On devait faire des réunions publiques. C'est interdit. 6 personnes, une réunion publique, ça n'a pas de sens. Donc on est obligé d'attendre cette sortie de là, de façon à grossir un peu. On a un exemple très précis. INVD, qui est une association de l'ouest de Millau. Ils ont 252 membres. Ils existent depuis 5 ans. Nous, on a 11 membres à l'heure actuelle, on existe depuis fin 2018. Voilà. Donc on a encore d'énormes progrès à faire en quantité de bénévoles avant de vouloir avoir que des salariés, ce qui est le principe normalement d'une association. Voilà. Mais rien n'empêche qu'on forme des gens, qu'on donne de l'emploi et que ça soit notre priorité, créer de l'emploi local. Voilà. Pour une richesse locale qui n'est pas délocalisable. Merci.
Eh ben, j'invite les curieux et les amateurs de vélo à aller voir sur le site Les Cévenols et même de venir à Florac à la Maison du Vélo.
Pour l'instant, sur rendez-vous. Hein. Donc, même s'ils tapent à la porte, il faudra qu'on prenne rendez-vous. On est un petit local, donc on n'a pas le droit d'être plus de 4 dedans. Mais on sera ravis de les accueillir et ravis de discuter avec eux au moment opportun et en fonction des possibilités qu'on aura. Avenue Jean Monestier. C'est juste quand on vient du centre-ville de Florac, de l'Esplanade, c'est juste avant la bibliothèque, sur la droite avant la bibliothèque. Ou quand vous passez, quand vous venez du Pont-Neuf, donc de la Corniche des Cévennes et autres, c'est juste après la bibliothèque, avant d'arriver au Crédit Agricole et à l'Esplanade. Voilà, on est visible, il y a un petit fanion bleu qui est marqué Maison du Vélo, et à terme, on devrait avoir un stationnement vélo à proximité qu'on a demandé à la mairie. Soyons patients, les choses se mettent en place progressivement. C'est jamais assez rapide pour tout le monde, mais on fera ce qu'on pourra pour essayer de répondre aux demandes des gens et être à leur disposition. Peut-être faire des miracles à partir de ce qu'on nous amènera, mais encore faut-il que ça soit possible. Donc pas de Père Noël, mais remise en cause du tout jeté et de je rachète neuf. Voilà, ça c'est notre philosophie. Et de la même façon qu'on peut le faire avec les voitures dans le cadre du rétrofit, où on transforme des voitures anciennes, qui est notre concept, qui est notre amour, un amour de passage, plutôt que de jeter la voiture, on en fait une voiture nouvelle qui a une seconde vie, ce que Renault va faire à Flins par exemple, en refaisant et en remettant des voitures dans un cycle de vente garantie qu'on appelle la remise à neuf. Voilà. On est dans cette philosophie du réemploi absolu, autant que faire se peut, de ce qui est réemployable. Ça, c'est bien la garantie qu'il faut avoir en tête. On ne peut pas réemployer quelque chose qui est hors d'état. Mais accessoires d'occasion, vélo d'occasion, tout ça, ça peut avoir une deuxième vie. À nous de leur donner cette chance d'être un souvenir qui se perpétue. C'est un peu le défi qu'on s'est donné sur le monde du vélo Cévenol. À voir si on réussit, mais on réussira collectivement par l'équipe et collectivement par la confiance des gens ou la curiosité des gens et des résidents à venir nous voir. La deuxième étape, ça sera quand même que les journalistes essayent les vélos. Hein ? Donc, le 25 mai, il y a une itinérance, hein, Mérues Roc des Hortous. Ça serait bien qu'un journaliste de Radio Bartas y participe, au moins sur une étape.
Carrément, avec plaisir.
Histoire de se dérouiller un petit peu les mollets et le reste, et prendre un l'air en souhaitant qu'on ait du beau temps, ce qui n'est pas le cas de cette semaine. Bon, il faut de l'eau, hein. Il faut de l'eau pour la nature, donc respectons la nature et acceptons le climat un petit peu moins favorable au printemps tel qu'on le conçoit, à savoir soleil et je peux sortir et je peux commencer à bronzer. Voilà, c'est pas encore le cas, attendons un petit peu.
Merci Pierre-Antoine.
À bientôt.
Merci Corto. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se retrouve mercredi. En attendant, prenez soin de vous. On se quitte à l'actu, hein, puisque cette circonstance, Yves Montand à bicyclette. Allez, à mercredi. Ciao.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.